Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on est avec un retour à la co-animation, Maïka Sundarji, professeure adjointe à l'Université d'Ottawa à l'École de développement international et mondialisation, co-instigatrice aussi de Femmes expertes. Bonjour Maïka.
Bonjour Émilie.
T'es contente d'être de retour à Détour?
Merci de me réinviter, je me sens privilégiée.
Écoute, des perles comme ça, on laisse pas ça passer. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de la couverture médiatique de la relation entre le Canada et l'Inde et tout ce qui a explosé dans la dernière semaine et des relations internationales du Canada en général. Est-ce que la marde est en train de pogner, Maïka? C'est la question qu'on se pose.
Le sac de marde est en feu. On s'attendait pas à ce que ça pogne autant, mais on est là.
On est là. Bienvenue à Détour. Alors, rappelons d'abord l'ordre des choses. Le 18 juin dernier, Hardeep Singh Nijjar, qui est le dirigeant d'un temple sikh, bien sûr un citoyen canadien, a été tué par balle juste devant son temple à Surrey, en Colombie-Britannique. Et le 17 septembre dernier, le Globe and Mail s'apprêtait à publier des infos délicates sur cet assassinat-là. Et délicate est peut-être ici un euphémisme, là, mais essentiellement tout exposer le business privé des affaires secrètes du Canada directement dans les médias. Le bureau du premier ministre en est avisé. Et le lendemain, Justin Trudeau fait une annonce pour essentiellement ne pas se faire scooper par le Globe and Mail. Il dit qu'une enquête sur des allégations crédibles d'un lien possible entre le gouvernement indien et le meurtre sont en cours.
Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty.
Ça suscite énormément de réactions, bien sûr dans le Globe and Mail qui est parti le bal, mais aussi un peu partout au pays. Qu'est-ce que toi t'as remarqué ou que t'as retenu de ces réactions-là suite à cette annonce-là cette semaine?
Bien, c'est intéressant comment tu le présentes, puis c'est intéressant de parler de ça en lien avec les médias, parce que je pense que les médias ont joué un très grand rôle dans comment, justement, il a été obligé de dire l'Inde fait de l'ingérence, qu'il a été obligé de se rétracter après parce que là, les médias ont fait une grosse boule de neige avec ça, puis comment il a dû interagir avec les médias ici, mais comment les médias indiens ont participé à la réaction du premier ministre indien Narendra Modi. Donc, il y a vraiment eu On s'est emballé sur le sujet, alors que s'il n'en avait pas parlé, on en serait resté là.
Donc, c'est comme si le quatrième pouvoir essayait d'être le premier, là. Les médias ont essayé de faire l'actualité plutôt que de la commenter, c'est ça que tu dis un peu?
Oui, mais ça a marché dans ce cas-là, parce que ce genre d'assassinat-là, il y en a souvent, là, je vais dire mettre des guillemets, des air quotes que vous ne voyez pas, mais il y en a quand même souvent. Les gouvernements vont parfois pas aller jusqu'au stade d'accuser un autre pays d'ingérence. Parce que c'est vraiment ça qui a été la nouvelle. C'est, oui, le meurtre, mais finalement, il y en a peut-être eu d'autres avant, mais le fait d'accuser un pays étranger d'ingérence, c'est là c'est un gros débat en relation internationale. C'est un bris de la souveraineté du pays. Puis là, M. Trudeau pouvait pas, effectivement, rien faire. Donc là, souvent, on m'a demandé, ah, mais est-ce qu'il a pris la bonne décision d'accuser l'Inde? Écoutez, ses stratèges ont décidé qu'il fallait le faire. Après, il peut pas vraiment donner ses informations parce que c'est comme si tu dis « Ah oui, j'ai un espion à tel endroit, j'ai un canal de communication ici, tu révèles pas tes sources parce que c'est l'intelligence secrète. » Donc là, les médias, on est tout en train de fabuler sur c'est quoi les informations, d'où viennent les informations. Donc là, c'est comme il y a une chicane basée sur « on n'est pas trop sûr sur quoi », mais c'est une grosse chicane.
Les journalistes du Globe and Mail qui ont sorti cette information-là sur l'Inde étaient les mêmes qui avaient sorti les informations sur la Chine, probablement avec les mêmes les informateurs du SCRS. qu'au printemps dernier aussi.
Mm-hmm.
D'ailleurs, il y avait cet article très intéressant dans Jazeera du chroniqueur Andrew Mitrovica, intitulé « Trudeau's India crisis shows he has lost control of Canada's spies ». Essentiellement que le Canada a perdu le contrôle de ses espions et que c'est les espions qui décident de juste leak des choses à des journalistes, qui décident de comment qu'on parle de la politique étrangère du Canada. Ça semble être un peu ça, mais...
On est dans cette ère-là. Il y a des free-rangers partout.
Espions rogues. Est-ce que... Tu penses que le Canada réagit comme ça, notamment parce qu'ils ont craint de reproduire le scénario du printemps où ça crée une crise qui a duré pendant des semaines parce qu'ils sont pas à, ils n'ont pas essentiellement collaboré tout de suite avec le Globe and Mail?
Oui, ou ils n'ont pas dirigé le discours. Ce qui est important en politique, c'est de contrôler le narratif.
Ouais.
Puis là, ben, ils ont probablement, effectivement, c'est une bonne analyse, ils ont probablement voulu faire ça, mais ils l'ont échappé. Parce que clairement, ils n'ont pas réussi à contrôler le narratif. Clairement, ils ont été en réaction. Après ça, toute la semaine, ils ont été en réaction. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à une réaction aussi forte de l'Inde. Mais là, ici, c'est l'au bout. Mais en Inde, l'au bout aussi contre le Canada. Là. C'est vraiment, là, la relation bilatérale est vraiment, vraiment très affectée par ce qui se passe cette semaine. Là.
Mais en même temps, si on ne s'attendait pas à ce que ça réagisse aussi fortement en Inde, c'est peut-être parce qu'on comprend mal l'Inde. Et c'est ça aussi qui m'a surpris tant dans... Je ne sais pas si surpris, c'est le bon mot, mais c'est ça qui m'a frappé dans la réaction tant politique que médiatique ici, c'est qu'il n'y a pas nécessairement eu beaucoup d'efforts ou même de contexte pour expliquer pourquoi est-ce que l'Inde potentiellement voudrait assassiner des leaders sikhs au Canada. C'est quoi le séparatisme sikh? C'est quoi ce projet-là de Khalistan? Quelle est l'idéologie derrière le mouvement politique du président Modi? C'est quoi le nationalisme hindou? Toutes ces belles affaires-là, très complexes, c'est pas nécessairement la tasse de thé de la plupart des journalistes politiques ici. Donc, on se concentre sur est-ce que Justin Trudeau a perdu la face? Est-ce que si? Est-ce que ça? Au niveau très au rang des pâquerettes là, de l'actualité politique, mais le contexte qui nous permet de vraiment comprendre ce qui se passe n'est pas là. Donc, j'en profitais, tu sais, d'inviter une politologue pour nous expliquer, Maïka, c'est quoi l'Inde, politiquement parlant?
Bon, alors, nous avons un cours de 4 heures devant nous. Écoute, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Puis là, on commençait, les premières questions qu'on posait, c'était effectivement très de base. Finalement, je suis allée à Mario Dumont, qui m'a posé d'excellentes questions sur l'histoire. Puis là, après quelques jours, on a commencé, mais effectivement, il n'y a pas non plus beaucoup de spécialistes de l'Inde au Québec.
Oui, c'est vrai. Il y a un enjeu d'expertise francophone sur l'Inde.
Tout à fait. Puis il y a aussi pas beaucoup d'Indiens, d'Indiennes spécialistes de l'Inde au Canada. Dans les médias, j'en ai pas vu, tu sais, 2 millions, alors que pour d'autres régions, pour d'autres pays, il y en a. Donc, souvent, on a un regard un peu occidental sur ce qu'est la politique là-bas, tout ça. Puis bon, moi, je suis, la moitié de ma famille est d'origine indienne, mais je prétends pas avoir le point de vue indien, là. Mais bon.
Non, mais quand même, t'as dû être en demande cette semaine. Quand on en trouve un, d'habitude, on se de l'arrache.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Je suis allée 3 fois à Mario Dumont, là, en une semaine.
Bon,
mais,
voilà.
Mais donc, c'est ça. Donc, le projet de Khalistan, c'est vraiment en Inde super important. Puis c'est pas la première fois là, que ça effrite les relations entre le Canada puis l'Inde. Parce que, bon, c'est évidemment pas la même chose que le séparatisme québécois. Mais il y a des liens à faire, c'est finalement les Sikhs qui se retrouvent majoritairement au Punjab. Mais c'est un projet quand même des Sikhs, des personnes de religion Sikh qui n'est pas une religion musulmane, qui n'est pas une religion chrétienne ou catholique. Les Sikhs se retrouvent un peu partout en Inde. Mais depuis la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947, les musulmans qui se retrouvaient en Inde, il y en a beaucoup qui sont allés du côté Pakistan parce que le Pakistan est à majorité musulmane. Et les Sikhs qui se retrouvaient du côté Pakistan, le nouveau Pakistan, sont beaucoup allés en majorité, sont revenus du côté de l'Inde pour être sûrs d'être avec des Sikhs. Et donc, c'est à partir de là que le Punjab est devenu à majorité Sikh. Le gouvernement indien est souvent hindou, donc, et parle hindi, donc le gouvernement de Delhi. Il y a eu beaucoup d'interventions militaires dans le Punjab, notamment au Temple d'Or. Là, je suis allée là-bas, c'est super beau. Tu sais, les Sikhs ont un temple, puis ils donnent de la nourriture tous les jours. C'est vraiment un peuple très... beaucoup sur le don, sur la philanthropie. Puis là, bon, dans ce temple-là, à un moment donné, il y a eu une intervention militaire. Après ça, les Sikhs étaient très fâchés. Et c'est un garde du corps de Indira Gandhi, l'ancienne première ministre indienne, qui était la fille de Nehru. C'est un garde du corps Sikh qui l'a assassiné en 84. Et les manifestations en juin qu'il y a eu, auxquelles la personne qui a été assassinée participait, il y avait des pancartes là, de glorification de l'assassinat de Indira Gandhi parce que c'est des Sikhs puis ils sont comme c'est un coup d'éclat que les Sikhs ont fait historiquement. Donc là, déjà, c'est sûr, là, l'Inde est fâchée parce que là, il y a des gens au Canada qui promouvoient le séparatisme Sikh et la violence envers, tu sais, des gouvernements hindis. Mais Trudeau a historiquement accepté beaucoup de personnes qui sont considérées comme terroristes par l'Inde. Il les a acceptées comme réfugiés ou comme citoyens canadiens parce que il y a quand même 2% de la population canadienne qui est Sikh. Et le gouvernement libéral, le Parti libéral, historiquement, les Sikhs votent majoritairement pour le Parti libéral. Il y a beaucoup de ministres qui sont Sikhs dans le gouvernement de Justin Trudeau.
Oui, c'est ça, en fait. Le Punjab, c'est une minorité, c'est une petite région, globalement parlant, en Inde. Mais quand on regarde l'origine des politiciens indo-canadiens, il y a une surreprésentation incroyable. En fait, la plupart des Indiens qui sont en politique dans tous les partis au Canada sont originaires du Punjab.
Pour eux, c'est comme si on encourageait là, le séparatisme Sikh. Après, je sais pas ce que Trudeau en pense, mais c'est quand même, ça regarde bizarrement. Il n'y a pas d'autres pays où il y a autant de personnes Sikh dans les partis au pouvoir, tu sais, ou que le chef d'un parti national est Sikh. C'est quand même plutôt unique, là.
Non, absolument. Et d'ailleurs, tu as suivi, je pense, dans les derniers jours, la couverture médiatique indienne de ce qui s'est passé entre le Canada et l'Inde. Qu'est-ce que tu retiens de la manière dont on a parlé du Canada en Inde dans les derniers jours?
Là-bas, là, on est tellement, puis depuis, comme je te dis, c'est pas nouveau, là. Mais là, c'est pire cette semaine. On est tellement vu comme un petit pouvoir qui a pas d'importance. C'est comme, on s'en fout de ce que vous faites, puis vous défendez les terroristes, finalement, parce que qu'ils soient terroristes ou non, ils sont considérés comme terroristes par le gouvernement indien et par beaucoup de personnes en Inde. Donc, pour eux, on est juste une terre qui accueille des terroristes, là.
After claiming credible allegations that Indian agencies were behind killing Hardeep Singh Nijjar, the Khalistani terrorist based in Canada, now Trudeau appears to have backtracked. First snubbed in India, then humiliated for not getting support for these absurd claims made in the parliament. Now Trudeau appears to have softened the stand after the pushback.
We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process.
Je suis pas sûre que je dirais que je suis canadienne si je vais en Inde en ce moment là.
Pourquoi penses-tu que cette compréhension là est souvent absente de nos médias? Parce que me semble que ce serait pas compliqué d'expliquer. Au moins, tu sais, avoir un petit paragraphe quelque part là, qui explique voici pourquoi les nationalistes sikhs ou les activistes sikhs sont considérés avec beaucoup de suspicion, de scepticisme du point de vue du gouvernement indien, et voici d'où ça vient, et voici les tensions entre les hindous, essentiellement les minorités religieuses en Inde. Pourquoi est-ce que c'est pas là, tu penses?
Bien, je pense, je vais pas te donner trop de crédit au gouvernement, je suis à peu près certaine qu'il doit avoir un stratège, je veux dire, qui est spécialiste de l'Inde. Là, moi, j'ai un ami qui est au gouvernement qui est spécialiste de, tu sais, la région ouest africaine. Tu sais, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui connaît les choses.
Je spécifie, je parlais, mettons, de l'espace public. Pourquoi dans l'espace public, c'est pas ça qui se passe?
Mais c'est ça que je trouve, que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans cette semaine, c'est que pas qu'on déprécie l'Inde, mais on réalise pas à quel point l'Inde est importante aujourd'hui. Même dans les médias, justement. Pourquoi est-ce qu'on parle pas plus de l'Inde? Pourquoi est-ce que ce pays-là a pas une importance comme la Chine dans les médias ici? Parce que, honnêtement, c'est maintenant le pays le plus populeux au monde. C'est une des grandes puissances économiques. Ça va être le joueur de qui on ne peut pas se passer avec la Chine, mais avec les BRICS en général, l'acronyme pour dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment des pays importants. Mais le Canada, je trouve, reste un peu dans sa vieille mentalité, a tardé là, à renforcer ses relations avec l'Inde, parce que si on avait des meilleures relations avec l'Inde en ce moment, on serait pas là. On aurait peut-être pas fait cette bourde diplomatique-là. On aurait eu un meilleur rendez-vous avec le premier ministre indien lors du G20 il y a deux semaines, quand on l'a demandé, alors que là, on l'a demandé, puis Narendra Modi a accordé comme 10 minutes à Trudeau, comme en deux réunions dans un corridor, tu sais. Donc, on n'avait pas une relation assez forte pour se permettre de les accuser de quoi que ce soit, alors que l'Inde prend de l'importance, puis c'est comme si on le réalisait pas, tu sais. Donc, j'ai hâte de voir comment on va s'en sortir, parce que demain matin, être l'allié de seulement les États-Unis puis l'Europe de l'Ouest, ça sera pas suffisant. Là.
Surtout qu'il faut préparer un plan de contingence au cas où les États-Unis deviennent fascistes.
Ouais! Tu veux pas être du mauvais côté de l'histoire.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Maïka, des tours comme ça, on aime prendre un moment entre nos deux segments pour souligner des histoires qui ont attiré notre attention. Y a-tu quelque chose que t'aimerais qu'on garde en tête cette semaine?
Ben, ça concerne l'Inde, mais c'est quelque chose dont encore. On a très peu parlé encore, mais la plupart des gens, je pense, en ont pas entendu parler, c'est que...
Mais justement, le thème, c'est « Éduquez-nous sur l'Inde », donc allons-y.
Oui, c'est ça. En fait, c'est que le premier ministre est un nationaliste hindou et il a fait la proposition récemment, puis on va voir où ça va aller, mais de changer le nom de l'Inde ou en tout cas de choisir plutôt que d'utiliser India, d'utiliser le nom Hindi, donc Bharat. Puis ça, c'est vraiment... C'est déjà le nom officiel de l'Inde, c'est les deux, en fait. Mm. Mais si ils décident de seulement utiliser le nom Hindi, bien, ça participe à une hindouisation de l'Inde. C'est pour imposer le nom Hindi, alors qu'en Inde, il n'y a pas juste des gens qui parlent Hindi. Donc, c'est vraiment... Il y a un processus là, qui est important à surveiller politiquement, mais on n'en a pas parlé parce que c'est un nationaliste hindou qui opprime notamment les musulmans puis les sikhs. Donc, ça va être important de suivre ça.
Ouais, parce que moi, les quelques articles que j'ai vus passer là-dessus, les quelques réactions que j'ai vues passer là-dessus, c'était « Ah, c'est bien parce que le nom Inde vient aussi du colonialisme britannique, etc. » Donc là, c'est reprendre le contrôle du nom de son propre pays. Sauf que finalement, ce que tu dis, c'est que puisque c'est le nom en hindou et qu'il y a plein de diversité linguistique religieuse en Inde, c'est mettre son étampe sur le fait que l'Inde est un pays hindou et ça peut diviser à l'intérieur même de l'Inde, c'est ça?
Exactement, c'est beaucoup plus complexe que seulement la dichotomie que j'ai vue aussi beaucoup dans les médias. C'est « Ah, c'est super, un pays qui revient à son nom, à ses racines, contre le mauvais colonialisme anglais, mais il y a beaucoup de gens en Inde qui préfèrent même parler anglais. Moi, je me souviens, là, comme touriste, ils préfèrent me parler anglais que hindi parce que l'hindi, c'est la langue de Delhi. Puis Delhi a historiquement essayé d'imposer l'hindi partout au pays. Il y a eu beaucoup de violence puis de clash entre les régions quand ils ont voulu faire de l'hindi la langue nationale. Puis il y a beaucoup de régions qui ont poussé, qui ont milité pour que l'anglais reste langue nationale. Puis finalement, ça a été... l'anglais est resté comme langue nationale finalement. Nehru et Indira Gandhi ont finalement cédé aux pressions parce que ça aurait été trop... Donc, ils sont plus contre l'impérialisme de l'Indi que contre le colonialisme de la Grande-Bretagne.
Merci franchement d'être resté sur ce sujet pour bien noter. D'habitude, on essaie de changer, mais dans le cas-ci, c'était vraiment parfait parce qu'il faut vraiment justement nous déniaiser là-dessus. Donc, merci de nous avoir expliqué cette nuance-là. Maïka, c'est vraiment bien noté.
Et Émilie, j'imagine que tu as aussi des choses en tête que tu souhaites nous souligner pour cette semaine?
Écoute, moi, j'ai commencé la semaine avec quand même un mal de tête parce que en faisant différents panels politiques, des chroniques et tout, ce qu'on m'a demandé de commenter, c'était les nazis. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, en fait, parce qu'il y a eu deux histoires de nazis. La plupart des gens ont retenu ce qui s'est passé à la Chambre des communes avec le vétéran ukrainien de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est battu contre la Russie à l'époque. Et là, les gens n'ont pas fait 1 plus 1 égale 2 que la plupart des gens qui se sont battus, des Ukrainiens qui se sont battus contre la Russie durant la Deuxième Guerre mondiale, ont pris du bord des Allemands, qui est probablement un vétéran d'une unité nazie. Et là, ça crée un petit malaise.
Oui, on assume que les gens étaient du bon côté de l'histoire, mais pas nécessairement.
Oui, ou on assume que les gens au bureau du président de la Chambre des communes ont googlé, mais non.
Apparemment,
là,
non.
Non, et là, ça crée un autre scandale international. Il y a aussi Alexandre Cormier-Denis, qui est un nazi, disons, adjacent, ou un personnage d'extrême droite, ethno-nationaliste assez particulier, qui s'est invité à l'Assemblée nationale en voulant déposer un mémoire et participer à la commission parlementaire sur la réforme de l'immigration au Québec. C'est grâce donc aux journalistes de Pivot que les parlementaires ont fini par comprendre qui était ce personnage-là. C'est à partir de Pivot que les autres médias ont relayé la nouvelle et se sont mis à expliquer qui est Alexandre Cormier-Denis. Et à partir de ce moment-là, finalement, les parlementaires ont décidé de ne pas lui donner accès donc à l'Assemblée nationale pour la consultation. Donc vraiment, deux personnages comme ça qui interviennent dans l'actualité politique dans la même semaine, je trouve ça beaucoup. Tu sais, un nazi, c'est déjà un nazi de trop, mais là... deux
oui,
comme
un
ça.
Un nazi, c'est le ouais. Non, il y a des gens à la recherche qui ont pas fait leur job du tout là.
Non, deux comme ça en plus de la viralité d'une annonce en Colombie-Britannique. Sur l'annonce, on pouvait lire: Are you looking for somewhere your children can play with others that look like them? Are they tired of being a minority in their schools or daycares? Escape force diversity and join other proud parents of European children as we create an atmosphere in which our kids can feel like they belong.
Wow, un retour dans l'histoire. On dirait qu'on est dans la ségrégation aux États-Unis dans les années...
Non, mais c'était pas cute. Est-ce qu'on peut juste... je veux juste prendre en note le fait qu'on vient de vivre une semaine pas cute.
Bien noté.
Micah, ce qu'on est en train de dire un peu... C'est qu'à bien des niveaux, la réputation internationale du Canada n'est plus ce qu'elle était jadis dans une espèce d'âge d'or qu'on romantise aussi souvent, je trouve, au pays. Mais l'idée qu'il y a un écart entre l'image que le Canada se fait d'elle-même ou de lui-même à l'international et ce que bien les acteurs, surtout les acteurs émergents, les pays du BRIC et les pays du Sud, de manière générale, se font du Canada, il y a quand même un écart assez rocambolesque. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet écart-là ou juste nous dire c'est quoi la réputation à l'international du Canada en ce moment?
Bien, la réputation en ce moment, à plusieurs niveaux, ça s'effrite. Là, je ne serai pas un historique de toutes les erreurs là, en géopolitique qu'on a fait, mais déjà pour dire que le Canada, historiquement, on est une puissance moyenne qui, pour une raison que j'ignore encore, on s'est retrouvé au G7, donc on est dans le club des gens très importants, mais...
Excuse-moi, la pointe, elle passe vite, hein? La pointe, elle passe vite, mais elle est là. Faut pas battre des cils pendant que tu parles, parce que...
Si M. Trudeau écoute ce podcast...
Donc, le Canada est au G7, on sait pas pourquoi. Vas-y, continue.
Écoute, mais là, on est content parce qu'on a des amis très, très puissants et historiquement, on est respecté. Mais historiquement, tu sais, la part du Canada sur la scène internationale, c'est qu'on est ben fin. Là, j'euphémise, mais en fait, on est une puissance qui a historiquement soutenu des causes de droits humains. On est à la Banque mondiale, au FMI, à l'ONU, on est une voix progressiste. Sauf que depuis quelques années, je te dirais depuis le gouvernement conservateur, là, c'est vraiment pas la faute des libéraux, notre image s'est un peu ternie, notamment parce qu'en termes de coopération internationale, là, les conservateurs, c'était pas leur priorité. On a cessé de soutenir beaucoup de droits humains, notamment les droits des femmes, tout ça. Donc, il y a vraiment... cette image-là s'est ternie. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme si on essayait de retrouver ce blason-là, retrouver notre image de bonne puissance, mais ça marche pas tout à fait. Il y a quelques années, on a échoué à avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil élargi, alors qu'on a fait beaucoup, beaucoup de diplomatie pour avoir ça. Pendant la COVID, il y a plusieurs positions qu'on aurait pu prendre pour défendre le droit, par exemple, des pays du Sud global, et des pays comme de l'Inde ou de la Chine, mais on les a pas pris. Il y a même je me souviens, c'est les États-Unis qui proposaient de lever les brevets pour les vaccins, alors que le Canada disait non, 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 on va protéger les compagnies pharmaceutiques. Fait que sur plusieurs débats, on n'est pas là, on réussit pas à être un chef de file en termes de solidarité internationale. Puis là, ben, finalement, si on n'a pas cette réputation-là, il nous reste quoi? Du bois puis un peu de gaz naturel. Tu sais, on n'est pas... On peut pas se permettre de perdre notre réputation là. C'est quelque chose de super important pour l'identité canadienne. Tu sais, on n'est pas les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est plus smart. Parce que on est invité à des endroits que les États-Unis sont pas invités. Parce que les gens nous respectent historiquement. Tu sais, pour notre leadership en solidarité. Puis là, ça c'est en train de crumble.
Est-ce que t'as des explications sur pourquoi? Puis là, je vais t'en donner une que moi j'ai vue passer, que j'ai trouvée fascinante. C'est à la fin de l'automne dernier, il y a une série de textes de Boris Proulx, un collègue au Devoir, correspondant parlementaire à Ottawa, qui parlait de la fonction publique en diplomatie internationale, au fait que à quel point c'est tellement difficile d'avoir, ne serait-ce que des gens qui parlent français, qui travaillent aux affaires mondiales, surtout dans le leadership senior, que on a une des diplomaties les moins compétentes des pays du G7 en termes linguistiques. C'est-à-dire que, vu qu'à l'interne, cette résistance-là à apprendre le français, lorsqu'il est temps d'apprendre, je sais pas, l'arabe, le russe, le portugais, l'espagnol, name it, il y a encore plus de complexité à faire apprendre nos diplomates d'autres langues. Et là, on envoie des diplomates qui parlent pas la langue locale de là où ils sont déployés. Et la qualité des informations qu'on reçoit est aussi nécessairement beaucoup moindre que ce qu'elle serait si on avait des diplomates plus compétents. Donc, il y a un ensemble de questions comme ça qui se posent. Là, je viens de t'en donner une, mais est-ce que tu vois d'autres pistes ou d'autres raisons pour lesquelles ça semble être si complexe que ça de comprendre comment le monde fonctionne à l'intérieur même de la diplomatie canadienne?
Mais c'est vraiment une bonne analyse, puis je te dirais, moi, je la politologue en moi, on dirait que je me perçois rarement comme une politologue, mais il y a ça beaucoup, je m'intéresse beaucoup aux pratiques,
ouais.
Puis en diplomatie, c'est ça, c'est que c'est pas le gouvernement du Canada comme cette entité désincarnée. Ce qui fait la diplomatie canadienne, c'est les diplomates. C'est là où il faut regarder un peu partout, puis là, je me demande si, justement, on parle de formation en histoire, en culture, en langue, si ces gens-là sont pas assez formés, c'est sûr que ça crée ce tissu-là social là, de diplomatie est pas aussi fort qu'il pourrait l'être. Après, je suis pas au courant là, des détails de leur formation, puis c'est sûr qu'il y en a qui sont super bons, puis d'autres. Mais s'il y a pas non plus une direction claire, si c'est très compliqué la diplomatie, puis c'est vrai que en ce moment, moi je pense surtout à la francophonie. C'est pas on pourrait exploiter davantage nos avantages comparatifs, notamment le fait qu'on parle, tu sais, que le Canada est un pays bilingue, mm-hmm. mais encore là, on n'est pas tant un leader au sein de la francophonie, alors que c'est une des langues, tu sais, il y a l'anglais, mais il y a tellement de pays qui parlent français dans le monde que ça pourrait être ça notre avantage comparatif. On pourrait arrêter d'essayer d'être un joueur sur toutes les plateformes, toutes les scènes, puis juste favoriser nos liens avec les pays plus progressistes, nos liens avec les pays francophones. Mais puis du sud global, là, parce qu'en ce moment, l'Afrique francophone et anglophone est en train de prendre tellement d'importance sur l'échiquier mondial, mais nous, j'ai l'impression que le Canada, une des raisons pour lesquelles on est en train une erreur qu'on fait, disons, en géostratégie, c'est que on reste avec nos vieilles alliances, alors que l'Afrique en ce moment, l'Union africaine, ça va être un joueur à ne pas, qu'on pourra pas contourner dans les prochaines années, puis on parle français et anglais, donc on serait vraiment bien placé pour avoir des alliés différents, mais on le fait pas, je sais pas pourquoi.
D'ailleurs, on pourrait avoir tout un autre épisode là-dessus, mais bon, la France-Afrique est un peu en train de s'écrouler. Il y a eu des coups d'État au Burkina Faso, au Mali dans les dernières années, au Niger mm-hmm. cet été, et ensuite au Gabon. Donc, il reste de moins en moins de pays très, très proches de la France. Pourtant, ce sont tous des pays francophones. Il pourrait avoir une opportunité mm-hmm. là-dessus pour le Canada de jouer un rôle plus grand politique africaine. Mais pour ça, ça prendrait des diplomates seniors qui parlent français, et la discrimination systémique à l'intérieur mm-hmm. De Affaires mondiales, rappelons-le, fait que c'est encore excessivement difficile. Mais j'ai peut-être une autre piste d'explication pour toi sur pourquoi est-ce que c'est compliqué comprendre le monde en relation internationale. Ça me vient d'un article scientifique publié cet été d'une chercheure vraiment intéressante qui s'appelle Mainka Sundarji.
J'ai jamais entendu parler.
qui a écrit un texte qui s'appelle « Decentering the Western Gaze in International Relations, Addressing Epistemic Exclusion in Syllabi in the United States and Canada ». Puis dans son article scientifique, elle explique que dans le fond, même les gens qui étudient en relations internationales au Canada, dans les curriculums qui sont présentés, dans les syllabus qui nous sont présentés, finalement, c'est extrêmement occidental, et que si on veut comprendre un pays comme l'Inde, par exemple, parmi plein d'autres pays ou si on veut comprendre la Russie, si on veut comprendre la Chine, c'est pas en étudiant en relations internationales dans une université canadienne qu'on risque de vraiment être capable de bien comprendre ces pays-là.
Wow! T'es une des trois personnes qui a lu mon article scientifique, puis en plus, tu l'as compris! C'est incroyable! C'est fou parce que, effectivement, c'est une ligne d'analyse extrêmement pertinente, je pense, puis que j'aurais pas même pensé moi-même amener, mais effectivement, c'est un des problèmes en sciences politiques, c'est ce que je raconte dans l'article, c'est que dans nos plans de cours, on ne lit que des Occidentaux. Puis c'est pas, comme par exemple aux États-Unis, dans les plans de cours, c'est pas juste qu'on va assigner des gens anglophones, parce qu'on va assigner des Allemands qui ont écrit des articles en anglais, on va assigner des Français qui ont écrit en anglais, mais on va pas assigner des Sud-Africains ou des Chinois. C'est en relation internationale particulièrement, c'est tellement un champ où on a une vision occidentale du monde, une vision là très puis masculine. Donc j'ai écrit un autre article sur plus le regard masculin. Tu sais, c'est très les pays interagissent entre eux, c'est la vision réaliste dont on parle souvent aux étudiants. Au moins une séance ou deux séances par année, on va parler des théories réalistes. Il y a un bloc ici de pays qui, là, il y a des pays qui se joignent à ce bloc-là. De l'autre côté, il y a un autre bloc avec d'autres pays. Puis là, c'est comme, ça fait une balance de pouvoir, ce genre de concept-là. Alors que des approches africaines de la diplomatie, des approches chinoises de la diplomatie, des approches latino-américaines de, tu sais, de la violence, de la guerre, de ça, on n'en assigne pas. Fait que ça, notre vision reste vraiment biaisée sur comment le monde fonctionne. Et donc, quand on est au gouvernement, après, quand les étudiants à qui on enseigne en relations internationales se retrouvent au gouvernement, mais eux, leur analyse est biaisée, puis ils vont regarder l'Inde agir, vont regarder la Chine agir, puis ils ne comprendront pas. Je vois souvent des analyses sur, par exemple, américaines ou canadiennes sur la Chine, ce que fait la Chine en ce moment. Puis là, on comprend pas que la Chine n'est pas en train de bâtir une grande armée. Oui, mais parce que la Chine, la diplomatie, n'est pas basée sur le hard power. Elle n'est pas basée sur le fait qu'on va faire peur à nos ennemis. C'est pas ça. Ils ont investi leur argent autrement dans la route de la soie, dans des relations économiques, diplomatiques, dans le fait de donner des vaccins, par exemple, à d'autres pays pour que ces gens-là deviennent des alliés historiques. Donc, il y a vraiment d'autres manières de faire de la diplomatie, puis on le comprend pas, mais parce que on ne lit pas les analystes de ces pays-là. Puis ça nous en apprendrait beaucoup, je pense, sur comment le monde fonctionne.
Ça serait effectivement intéressant à faire. En tout cas, personnellement, j'ai l'intention peut-être d'en lire un peu plus dans les prochains mois, parce que j'ai l'impression que sinon je vais être dépassée dans mon rôle de chroniqueuse d'analyse politique. Il y a un autre texte qui m'a aidé un peu à comprendre ces enjeux-là, d'une chercheuse qui s'appelle Maïka Sondhaji, qui a publié un livre. En mars dernier.
Invite-moi plus souvent, là. Je me sens je me sens lue.
Ouais. Tu sais que Maïka Sondhaji qui a publié un livre en mars 2023 qui s'appelle White Saviorism in International Development: Theories, Practices and Lived Experience. Et là, je trouve ça intéressant qu'il y ait le contexte de White Saviorism qui soit ramené, ou de sauveur blanc, pour comprendre les relations Nord-Sud. Comment est-ce que ce concept-là de fardeau de l'homme blanc intervient encore dans les relations du Canada avec le Sud global?
Ben écoute, c'est super important qu'on en parle, parce que c'est encore quelque chose qui est très présent. Le complexe du sauveur blanc, dans le fond, c'est pour faire l'histoire courte, là, c'est on est dans un système où les pays du Nord global occidentaux vont exploiter, ou en tout cas on permet à nos compagnies d'exploiter différemment les gens, les travailleurs, les travailleuses, les gens en général dans le sud global. On va permettre à des compagnies d'aller voler des connaissances autochtones et les breveter. On va permettre à des compagnies d'exproprier des gens pour aller faire un barrage hydroélectrique. On va permettre à des compagnies de ne pas suivre des règles de sécurité des travailleurs, par exemple. Donc on permet donc cette exploitation-là globale qui se passe, mais de l'autre côté, on va faire des projets de développement international, entre guillemets, d'aide internationale, pour sauver ces pauvres personnes-là. Donc là, ça, c'est la mentalité du sauveur qui ne prend pas en compte le plus grand système. Donc le Canada, par exemple, va faire des projets d'empowerment, d'autonomisation des femmes au Guatemala, mais va aussi avoir des programmes où on encourage des hommes guatémaltèques à venir cueillir des bleuets ici, sans leur donner la citoyenneté, en les éloignant de leur famille pendant des mois, avec des conditions horribles et des salaires vraiment bas.
Fait qu'on détruit de la main gauche, qu'on construit de la main droite, c'est un peu ça que tu dis.
Exactement. On détruit de la main gauche, puis de la main droite, on va comme donner des pinottes pour... tu sais, on met un pansement sur une plaie ouverte. Ce que beaucoup de pays demandent, c'est pas un nouveau projet d'empowerment, ce serait des meilleures règles de commerce, des règles plus avantageuses, ce serait de lever, par exemple, certaines lois en termes de propriété intellectuelle, ce serait de cesser de que les compagnies, par exemple, paient des taxes dans les pays où ils font affaire. Donc, il y a toutes sortes de règles internationales qui pourraient changer, qui devraient changer, pas juste par un genre de on veut pas se faire sauver. Il y a beaucoup de pays qui veulent pas se faire sauver, là.
Quand tu parles de propriété intellectuelle, je me souviens, c'était aussi beaucoup la question durant la pandémie, là, sur rendre les vaccins plus accessibles aux pays du Sud, là, de lever les brevets sur, disons, rendre moins secrètes les recettes, entre guillemets, de vaccins qui fonctionnaient. C'est un peu de ce dont tu parles.
Exactement.
Merci beaucoup, Maïka, pour ça. C'est tout pour Détour cette semaine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Twitter ou X, maintenant, à CanadaLand. Et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Maïka, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
Ils peuvent me trouver sur Facebook, Meta, ou sur Twitter X. Ou sur LinkedIn, pour ceux et celles qui y sont encore.
Yes, LinkedIn. Mais c'est peut-être le seul endroit qui n'est pas en train de soit imploser, soit pas nous permettre de partager les articles.
Oui, effectivement, LinkedIn, c'est comme mon média social préféré ces temps-ci.
Vous pouvez aussi Écoutez tous les nouveaux épisodes de Détour aux 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et, encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.